L'unité est quelque chose à laquelle nous adhérons tous. Personne n'aime les conflits, personne n'aime les querelles, les divisions, les tensions. Et cependant, que ce soit dans nos propres familles, au travail, parfois même dans l'église, on a tous connaissance de rivalités, de discordes, de soucis relationnels avec quelqu'un. Et c'est le souci de Dieu aussi cet après-midi. Qu'est-ce qui va favoriser l'unité, notamment ici pour nous, en ce qui nous concerne à l'église Grenoble-Est, qu'est-ce qui va favoriser l'unité, nous qui expérimentons déjà, je dois le dire, une belle unité, de la paix, quelque chose qui, de la fraternité, quelque chose qui me touche personnellement beaucoup. Qu'est-ce que va favoriser l'unité dans notre projet commun d'implanter une église à Grenoble et aussi une église qui se structure? Un barbecue? Un barbecue, c'est très bien. On va en avoir un dans un instant. Ça permet de solidifier nos relations, de parler, d'apprendre à se connaître. Faire du sport ensemble? Je pense qu'il y en a certains qui aiment le faire. Se dépenser en équipe, ça forge les mentalités. Plus de positivité. On se retient de ne pas parler de sujets qui fâchent. On fait attention à ce qui sort de notre bouche quand on ne s'entend pas avec quelqu'un. Alors, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais si nous voulons réellement expérimenter une unité profonde, si nous voulons expérimenter une unité profonde, Paul, un des responsables de l'église chrétienne du 1er siècle, Paul ne va pas aller vers ces solutions, car pour lui, elles ne vont pas assez loin. Et Paul va en fait nous surprendre cet après-midi. Pourquoi ? Parce que sa réponse à la question « Comment encourager l'unité ?», que ce soit dans nos familles, au travail, dans l'église, la réponse, c'est une doctrine, l'incarnation. Une doctrine, l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation ? C'est la conviction fondamentale que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme le dit le symbole des apôtres. Jésus-Christ est le Fils de Dieu devenu homme, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. C'est ce qu'on célèbre à Noël. Et là, vous me dites, rien, je suis désolé, il fait chaud, j'ai pas vu la neige, où est le sapin ? C'est quoi ? Pourquoi tu nous parles de l'incarnation aujourd'hui ? T'es un peu en avance. Noël, c'est pas encore maintenant. Eh bien, la réponse, pourquoi évoquer l'incarnation en cette période de l'année ? C'est parce que l'incarnation a un lien avec l'unité. Pourquoi et comment l'incarnation favorise, encourage, fortifie l'unité ? Ben, regardons ça ensemble. Regardons d'abord notre pensée, versets 1 à 4. Dans les versets 1 à 4 et jusqu'au verset 5, le mot-clé de notre passage, c'est le mot « penser ». Il est là au verset 2. « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Alors, on ne le voit pas trop avec notre Bible blanche, mais c'est le même mot qui est derrière « plein accord ». Et verset 5, « une même attitude ». Ce qui nous aide, en vrai, grâce à la traduction de la Bible Second 21, la Bible blanche, parce que penser ne veut pas dire penser exactement la même chose. Il est moins question ici d'un effort intellectuel que d'une attitude, un état d'esprit. Ayons la même pensée, avoir la même pensée, c'est posséder la même attitude, une même mentalité, une orientation commune. Paul désire vraiment que ces Philippiens, ils avancent côte à côte, qu'ils puissent toujours plus ressentir et vivre le verset 1. De l'encouragement au Christ, de la consolation dans l'amour, de la communion de l'esprit, de la tendresse, de la compassion, qui sont toutes ces choses liées par un thème commun qui est le relationnel. Et donc vous et moi, cet après-midi, on est invités à passer un scanner. et voir ce qui va se passer en fait. Ce scanner va dévoiler ce qui se passe dans nos pensées. Et je ne sais pas pour vous, mais si je suis honnête, en fait, mon scanner, il n'est pas très beau à voir. Pourquoi ? Eh bien, regardez verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Oui, Paul souhaite encore voir plus d'unité dans une église qui expérimente déjà l'unité. Il veut qu'on soit tous en plein accord, qu'on avance main dans la main pour que l'évangile progresse. Mais que révèle notre scanner ? Que l'origine de nos tensions, nos difficultés relationnelles, nos disputes, vient d'une appétence pour une gloire sans valeur. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Qu'est-ce que c'est une gloire sans valeur ? C'est un désir de reconnaissance. La recherche de la popularité, de compliments, d'une renommée et donc d'une valeur, d'une identité. On veut trouver sa place. Et pourquoi cette appétence ? Pourquoi ce désir de gloire que Paul dit qu'il est sans valeur ? Parce qu'on est tous dans l'insécurité. On n'est pas sûr de notre valeur. On n'est pas sûr si on est vraiment aimé, si on est connu en tant que personne. On souffre tous au niveau de notre estime de nous-mêmes. On a tous quelque part un vide à l'intérieur de nous qu'on essaye de remplir pour pallier à cette insécurité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du ténia saginata ou du ténia solium, autrement appelé le ver solitaire ? Il y en a qui hochent la tête, j'espère que ce n'est pas par expérience. On mange, on mange, on mange, sans jamais prendre des forces, sans jamais prendre du poids, parce qu'on a un ver qui est logé dans l'intestin grêle, qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long et durer environ 40 ans. Eh bien, dans notre cœur, nous avons aussi un ténia spirituel, affamé de gloire, affamé de succès, de renommée, qu'on cherche à remplir et à remplir, sans jamais atteindre la force et le poids qu'on souhaiterait avoir. Pourquoi on se préoccupe tant ? De qui fait quoi dans la famille ? Pourquoi on compte les points ? Pourquoi on compte les points au travail et à l'église ? Pourquoi on est à l'affût de à qui on demande de prendre cette responsabilité, de prendre la parole en public, qui attire vraiment l'attention ? Pourquoi on se compare souvent aux autres, pour ne pas dire en permanence ? Parce que on recherche une gloire. Parce qu'on a faim, vraiment faim, parce qu'on est dans l'insécurité. Nous sommes affamés de gloire, et si on y observe bien, en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous observez aussi, en fait, il y a deux moyens vraiment d'attirer l'attention sur nous. Soit on va chercher à briller, à projeter une image séduisante de nous-mêmes, soit on va chercher à se diminuer, montrer à quel point on n'est pas à la hauteur. Ça, c'est deux moyens, en fait, d'attirer l'attention sur nous-mêmes. Et dans les deux cas, que cherche-t-on ? Regardez-moi. Regardez-moi. Et si on veut attirer l'attention, si on se met en compétition avec des frères et sœurs, dans une famille, dans l'église, si on est prêt parfois à casser du sucre sur le dos de quelqu'un, si on se diminue régulièrement parce qu'on se sent inadéquat, tout ça vient de ce ténia spirituel qui nous met dans cette insécurité permanente. Et on veut le nourrir tout le temps, car la bête, oui, la bête a faim. Du coup, quand on entend l'exhortation de cet apôtre Paul, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. On est tous là, mais oui, Paul, c'est ça qu'on veut. Qui pourrait être contre les personnes qui sont altruistes, qui sont préoccupées par les autres, qui considèrent les autres supérieurs à eux-mêmes, qui ne peut pas désirer être vraiment ça? Si seulement je pouvais devenir cette personne qui met les autres devant elle. Mais en réalité, on est là dimanche. Et depuis le saut du lit, depuis que le réveil a sonné, à qui on est en train de penser le plus souvent? À moi. Enfin, à vous. Et donc, si vous êtes comme moi, cet après-midi, vous désirez plus toujours être cette personne altruiste qui se préoccupe réellement des intérêts des autres, à la recherche de l'unité, ensemble, et que vous reconnaissez qu'il y a cette fin de reconnaissance qui génère des esprits de rivalité, de comparaison, de compétition. La question que je nous pose, c'est est-ce qu'on est prêt à prendre le médicament antiparasitaire? Est-ce qu'on est prêt à prendre le médicament antiparasitaire cet après-midi? Bon, juste pour que vous sachiez, c'est comme ça qu'on se débarrasse du pénis. C'est pour ça qu'on a un deuxièmement la pensée de Christ, versets 5 à 11. Paul, tel un bon médecin, nous ouvre sa pharmacie pour nous donner le médicament spirituel. Et ce médicament spirituel, c'est cette fameuse doctrine de l'incarnation. Verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, ou plus littéralement, ayez en vous la pensée qui est en Jésus-Christ. Quelle est cette pensée? C'est la doctrine, c'est la conviction fondamentale, c'est l'incarnation. Dans versets 5 à 11, on a deux mouvements, on a un abaissement volontaire et puis une élévation volontaire. Un abaissement volontaire et puis une élévation volontaire. Et cet abaissement volontaire, Paul le décrit en deux étapes. Regardez la première étape. Lui qui est de condition divine, Jésus, qui est question ici de son mode d'existence, il est réellement Dieu. Et ça, c'est enseignement cohérent avec toute la Bible. 1 Jean 5, 20, nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Romains 9, 5, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tous, le Dieu béni éternellement. Oui, nous, on essaye tous de se remplir de gloire. Mais Jésus-Christ, lui, il est déjà glorieux. Il est pur, il est sans tache, il est suprême, d'une beauté incomparable qui va au-delà de notre compréhension. Réfléchissez juste avec moi un instant. Jésus, c'est la personne au centre de l'histoire. L'histoire avec un grand H tourne autour de sa naissance. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Il est celui dont le livre est le plus diffusé dans le monde. Tous les week-ends, des milliards de personnes autour du globe se rassemblent pour le chanter, lui dire qu'il est merveilleux, le louer, l'acclamer. S'il y a bien une personne, s'il y a bien une personne qui devrait avoir la grosse tête, c'est bien Jésus. Attention. Ouais, j'ai deux ballons. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des groupes, quand on est ensemble, quand on même devant son écran d'ordinateur? On se gonfle. On raconte nos exploits, n'est-ce pas? On révèle notre CV. On fait un peu de name dropping. Vous avez déjà entendu parler de name dropping? C'est quand tu dis le nom de quelqu'un avec laquelle c'est vraiment cool d'être associé. Ouais, je connais cette personne. On se gonfle. Et puis parfois, on va avoir l'autre stratégie. On parle de nos échecs, on se diminue. Oh là. Et on reste là. Comme ça. Lui, Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est comme ça. Lui, Jésus, il est comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Et nous, on reste comme ça. Lui qui existait pleinement en tant que Dieu, observez ce qu'il a fait. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas agrippé comme on s'agrippe à un trésor, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Jésus-Christ s'est incarné, celui qui était d'une beauté incomparable, au-delà de notre compréhension, ne s'est pas agrippé à cette gloire, mais il est devenu un simple homme. Mais ce n'est pas tout. Regardez la suite, il y a une deuxième descente, verset 8. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Tout le monde a vu la descente ? Dieu devient homme, esclave, et meurt sur une croix, sur l'instrument de torture le plus horrible que l'humanité ait inventé, la croix. À cette époque, évoquer la croix à table, le soir, c'est comme révéler un abus ou un inceste. On frissonne rien qu'en entendant à ces mots. Ce mot était tellement honteux, la croix, qu'il était interdit dans la bouche des gens à l'époque de Paul. Vous savez ce qu'on a découvert dans le palais impérial de Rome ? Une caricature. Une caricature sur laquelle est représentée une figure de forme humaine, crucifiée et affublée d'une tête d'âne. Et puis il y a un autre personnage à côté qui fait un signe de référence. Et à côté de ce graffiti, de cette caricature, on lit ces inscriptions. Alexandre adore son Dieu. C'est ça le christianisme au premier temps. Une religion d'un Dieu risible, moqué, dédaigné, nu, torturé, mis à mort sur l'instrument le plus sordide que l'humanité ait inventé. Je crois qu'on aime tous quand la star de foot qu'on admire descend dans les quartiers pour aller jouer au foot avec les gamins, signer des autographes et faire un gros chèque pour les associations. On aime tous cette idée de l'avocat prestigieux qui travaille à Paris, la Défense, et qui décide de faire devenir avocat commis d'office, pro bono, gratuitement pour soutenir des personnes qui sont en galère et qui n'ont pas les moyens de se payer le meilleur avocat. On aime tous l'idée de ce médecin qui quitte le confort de sa somptueuse clinique pour se rendre dans un pays défavorisé et pour prodiguer des soins à ceux et celles qui n'ont pas accès à ces soins. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est juste des illustrations de qui est le Dieu de la Bible. Un Dieu qui s'abaisse pour nous. Un Dieu qui est tellement sûr de sa valeur qu'il peut s'abandonner pour nous rencontrer et vivre notre humanité faite de galères, de souffrances, de pauvreté, pour vivre la vie parfaite d'obéissance et d'altruisme que vous et moi, on aspire tous à vivre, mais qu'on n'a pas vécu, et pour à la place subir la mort sur la croix. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est la pensée de Christ. Mais si l'incarnation, c'est d'abord l'abaissement volontaire de Jésus, regardez maintenant son élévation. Une élévation volontaire, verset 9. C'est aussi pourquoi l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après avoir souffert les tourments infâmes de la croix dans son âme, la condamnation qui aurait dû être la nôtre, si nous sommes chrétiens cet après-midi, Jésus a connu une élévation volontaire. Mais volontaire de qui ? C'est qui l'élève ? Ah, c'est Dieu. Dieu le Père. Ces versets nous racontent le triomphe de Jésus. Ici, on a le bouquet final d'une œuvre d'une grandeur infinie. C'est tellement prestigieux que les gens en perdent leur superlatif. Et certains parlent d'une surexaltation de Jésus-Christ. Dieu lui a donné le pouvoir et l'autorité sur tout. Il n'y a pas un centimètre carré de cette planète, pas une nanoseconde, une nanoparticule sur laquelle Jésus ne règne pas et ne dit pas « ça, c'est à moi ». Suite à son humiliation, Dieu l'a élevé, il est entré dans la gloire. Oui, Jésus s'est volontairement abaissé, mais c'est Dieu qui lui a permis que son nom soit au-dessus de tout nom. Un nom dont la renommée est maintenant aux quatre coins du globe. Un nom qui est de plus en plus connu au fur et à mesure que des personnes reconnaissent Jésus comme le Sauveur et celui qui accorde la vie éternelle. Jésus, pour se consacrer à notre salut, s'est oublié lui-même. Ayons en nous la pensée qui est en Jésus-Christ. Comment on se sent? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que ça crée, cette pensée de Christ en vous? Bon, je ne peux pas répondre personnellement pour chacun d'entre vous, mais voici ce que Paul voudrait qu'on ressente en entendant ces versets de l'humilité. Paul voudrait qu'on ressente de l'humilité. La pensée de Christ en nous génère de l'humilité. Vous avez un pasteur luthérien, Dietrich Bonhoeffer, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, au début, aux États-Unis, et qui a choisi volontairement, quand la guerre a éclaté, de retourner en Allemagne pour souffrir avec le peuple allemand qui était sous domination nazie. Un abaissement volontaire, motivé par la pensée qui est en Jésus-Christ. Et vous savez, l'humilité, ce n'est pas ce surdoué qui se fait passer pour un idiot. Ce n'est pas cet extraverti qui décide de se taire. Non, l'humilité, ce n'est pas se diminuer en face des autres, toujours parler de nos échecs, jamais une parole de trop. L'humilité, c'est de pouvoir moins penser à soi parce qu'on a trouvé les autres plus intéressant que soi. L'humilité, c'est de pouvoir joyeusement penser moins à soi, parce qu'on a trouvé les autres plus intéressants que soi. Et ça, mes amis, ça, c'est la clé de l'unité que Paul propose dans ce texte. Et c'est déjà la pensée qui est en Christ, qui est en nous. Du coup, ensemble, allons-nous considérer les autres dignes de notre aide, de notre encouragement ? Nos pensées vont-elles se diriger vers cette personne assise à côté de nous? Allons-nous prendre du temps pour édifier les autres? En fait, devenir chrétien, c'est simple, c'est un changement de pronom personnel. C'est passer du « je tue il », arrêter d'abord de penser à toi, puis aux autres, et puis, quand tu as le temps, penser à Dieu. C'est passer du « je tue il » à « il tue je ». Lui à la première place, Dieu à la première place, toi, les autres autour de moi, et enfin, ma personne. Ça, c'est le changement radical généré par la présence du Christ incarné dans nos vies. Alors peut-être qu'il y en a qui sont là et qui sont inquiets. Inquiets de vivre, de se dire à quoi ça va ressembler une vie en se préoccupant vraiment des autres. Mais j'ai trop de choses à faire. Pas assez d'énergie, et pas assez de temps. Ben, je comprends, c'est coûteux. Mais regardez l'alternative en face. Quelle est l'alternative en face? L'alternative à l'humilité, à la préoccupation des intérêts des autres, c'est de toujours penser à soi. Tenter de nourrir ce ténia spirituel, insatiable, en comparaison quasi permanente, parfois en rivalité, dans des disputes, des querelles. Et franchement, on le sait tous, c'est épuisant. Il y a une vraie liberté quand on se préoccupe des autres. Et plus on est ensemble à se préoccuper des autres, à se former pour édifier les autres, à prendre soin des uns des autres, à rechercher la paix, ben la vérité, c'est que on va aussi avoir plus de personnes qui vont s'occuper de nous. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on veut toujours plus d'unité à l'EGE? Si oui, alors regardons, observons, expérimentons que l'humilité, c'est la clé de notre unité. Ayons en nous la pensée qui est en Jésus-Christ. Vous voulez connaître votre valeur? Vous voulez être invincible, en sécurité permanente, au point d'être vulnérable, de mouiller le maillot avec sagesse pour les autres, pour l'Église, pour le progrès de l'Évangile? Regardez à Christ. Regardez à Christ et laissez-vous transporter une nouvelle fois par cet abaissement volontaire et cette élévation volontaire. Une doctrine, c'est pas simplement une case à cocher dans notre sondage de nos spiritualités. C'est quelque chose à chérir, sur lequel on veut retomber, méditer, trouver de l'inspiration grâce au Saint-Esprit qui est présent en nous et qui cherche à appliquer cette vérité toujours plus profondément dans nos vies.